Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fous, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, asservies, humiliées, les femmes. Acheté, vendu, violé, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes. Les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves.
Un remix sur Dégenré de ce morceau qu'on présente plus, hein, de l'hymne des femmes. Un remix qui se veut un peu donner la patate et un peu de pouvoir, de reprendre le pouvoir en main par la compagnie Jolie Môme, qui est une compagnie de chorale révolutionnaire, comme nous avons les Courageuses à Grenoble, qui ont un super site internet d'ailleurs, donc je vous invite à aller visiter pour écouter plein de chants révolutionnaires et féministes qui sont très enthousiasmants et qui donnent, qui donnent la niaque un peu pour lutter, quoi. Et donc, on est toujours en train de parler de sexe, classe, race et éducation populaire, notamment en suivant un peu le parcours de Kidora, qui nous parle un peu de ses prises de conscience et de comment ça s'est traduit dans ses engagements politiques, professionnels, ces questions d'émancipation et d'éducation populaire. Donc on a eu un petit souci technique lié à l'ordinateur, on va dire, tout à l'heure. Donc il y a eu une toute petite boucle supplémentaire qui était déjà passée au début de l'émission. Donc les personnes attentives l'auront remarqué. En tout cas, je remercie beaucoup Emeline qui est venue aujourd'hui faire la technique de dégenrer, un peu comme ça, à la volée et tout. Et qui se débrouille super bien avec toutes ces contraintes techniques, pas toujours simples, dans notre petite radio associative. Du coup, on va continuer à entendre le récit de Kidora avec tout le potentiel révolutionnaire qu'elle essaye d'explorer à travers l'éducation populaire politique.
Ça m'a rappelé surtout le pourquoi j'ai voulu faire de la socio. Parce que quand les profs nous demandaient un peu, on faisait des tours de table en début d'année, pourquoi vous êtes inscrit en socio et tout, et moi je répondais parce que la société dans laquelle on vit la société dans laquelle on vit, je la trouve insupportable. Et du coup, ben, faut l'étudier pour pouvoir, je veux l'étudier, voilà, pour pouvoir agir dessus, quoi. Et puis faire partie de, voilà, prendre part à une transformation de la société, quoi. Voilà. En fait, ça dépendait des profs. Sur certains profs, je disais ouais, pour faire la révolution, quoi. L'idée, c'est, enfin, du coup, c'est compliqué parce que de se dire éducatrice populaire, t'en viens à dire on éduque le peuple, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Mais déjà, pour moi, l'enjeu, vraiment, enfin, celui qui m'a fait venir à l'orage, c'est. En fait, j'en avais marre, en fait, que tout débat, toute situation, et y compris. Un certain point de la recherche sociologique se dépolitise autant. Alors j'y dis autant parce que on est vraiment arrivé à un état de dépolitisation que je trouve assez fort, en fait. Et cet état de dépolitisation, il est très politique, parce qu'en fait, quand on dépolitise les choses, ce qui se passe, c'est que grosso modo, c'est les dominants qui maîtrisent, hein. Du coup, par exemple, toute une branche de la sociologie refuse de parler de lutte des classes aujourd'hui, ça me fait complètement flipper. Il y a encore 10-15 ans en arrière, on va se dire, à la mort de Bourdieu, par exemple, c'était pas si évident que ça, hein, de dire. Et il y avait quelques sociologues, effectivement, qui disaient non, il n'y a plus de classe, il n'y a plus des classes, la classe moyenne, gna gna gna, ouais, c'est tout qui venait, mais ça faisait débat, quoi. Et là, j'ai l'impression, ces dernières années, j'ai l'impression que c'est même en sociaux, c'est le monde académique, hein, c'est un monde qui est très restreint, à la limite, qui a quand même une certaine influence, quoi. Une forme aussi de dépolitisation du syndicalisme. Alors, je parle pas de l'anarcho-syndicalisme, pour le coup, ni des syndicats qui se retrouvent vraiment dans des positions très affirmées, mais il y a quand même une dépolitisation, y compris du travail syndical des grosses centrales, comme... à la CGT, qui a quand même une grosse histoire dans le mouvement ouvrier. Du coup, même si aujourd'hui le syndicalisme en France, il est réduit à pas grand-chose, mais d'un point de vue symbolique, c'est quand même fort, quoi. Enfin, et ça reste un syndicat qui me semble être encore de lutte des classes. Sauf que ça ne figure plus dans leur l'abolition du capitalisme, hein, et du coup du salariat, ne figure plus dans leur statut. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils se retrouvent avec des gens qui se retrouvent sur des listes Front National aujourd'hui, parce qu'à force de tout dépolitiser, il n'y a plus de ligne politique, il n'y a plus un travail politique. Si les gens s'il y a des syndicalistes CGT se tournent à un moment donné vers le Front National, c'est parce que il n'y a pas un vrai travail politique sur l'identification vraiment de l'ennemi. Il y a tout ça qui n'est pas fait, quoi. On peut avoir un rôle à jouer en tant qu'éducatrice populaire, politique, c'est justement de remettre du politique partout. Il y en a à peu près partout, quoi. Et donc, du coup, de travailler à ça. Ouais, et ça joue à plein de niveaux, quoi. Et d'essayer de faire en sorte de ne pas être que sur de la posture. Enfin, de ne pas être sur de la posture politique, mais vraiment de faire les choses, en fait. C'est un peu ça qui m'anime, en fait. C'est de ne pas être sur des grands discours. On est tous capables de faire des beaux discours, je pense. Mais par contre, de mettre en œuvre les choses, d'essayer de voir les choses dans leur complexité. À l'orage, c'est pas mal un public, en fait, généralement c'est il y a pas mal de, on a un public, beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup des gens qui bossent dans l'éducation populaire, l'animation, en fait c'est principalement des travailleurs sociaux, des gens qui bossent dans l'animation, et un peu moins des gens qui bossent dans des milieux associatifs ou qui sont bénévoles et tout ça. Il y a un peu moins, c'est un peu plus marginal, j'ai l'impression. Enfin, c'est l'impression que j'ai en ce moment. Mais quand même, avec les collectivités, quoi, les gens qui bossent dans les collectivités locales. Hein. Ouais, voilà. Donc, du coup, les publics, Bah, les publics qu'on a concrètement, c'est à peu près les mêmes vis-à-vis desquels j'enseignais, en fait, au final, mais quelques années après. Et c'est... Bah, grosso modo, si on doit parler en termes de classe, c'est la classe moyenne, plus ou moins capitalisée en termes de capital culturel, voilà. Et enfin, c'est vraiment l'idée de classe intermédiaire, en fait, mais qui travaille, elle, avec les classes populaires. Donc du coup, voilà, l'histoire, c'est de faire... Ouais, l'ambition, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est de toucher en fait ces catégories intermédiaires pour toucher les structures en fait, puisqu'elles bossent dans les structures qui encadrent pour beaucoup les classes populaires et du coup essayer de créer des espaces. Alors après, si ça marche ou pas, je sais pas, faut savoir. Des fois, on se demande même est-ce qu'on met des pincettes ou pas à ce qu'on dit quand on présente nos hypothèses politiques. Et j'aime bien insister là-dessus sur la question des rapports sociaux et de montrer qu'en fait, ils s'inscrivent en fait dans une structuration sociale et pas dans des trucs inter-individuels. Bien sûr que ça joue à un niveau micro, forcément, mais ça joue à un niveau micro parce que toute la société est construite là-dessus, quoi. Donc du coup, on a quelques exemples, quoi. On a une expérience commune qui nous montre clairement que c'est quand même tendu de soulever les questions de rapport de domination, des questions de domination de genre déjà. Par exemple, le cas dans une structure d'action sociale et médico-sociale aussi. Une déléguée du personnel qui soulève en fait son problème qu'elle a et sur lequel elle veut travailler en chantier, puisqu'on travaille sur des chantiers à partir de situations concrètes insatisfaisantes rencontrées par les personnes. Et elle, son chantier, c'est qu'elle ne trouve pas sa place en tant que DP dans la structure. Bon, c'est un rayon. Son chantier est choisi en fait pour être travaillé. Elle vient nous voir à un moment en off parce qu'elle dit non, mais en fait, mon problème il recouvre autre chose. C'est qu'il y a des gros problèmes de sexisme et de violence sexiste du coup dans la structure. Et on ne sait pas trop comment le dire, comment le placer. Enfin, c'est compliqué. Parce que dans le travail social, tout le monde s'aime, les gens s'aiment, tout se passe bien, le conflit, il ne faut pas qu'il y ait de conflit, en fait, parce que quand on travaille dans le social, on apprend aussi à préserver la paix sociale, donc c'est ballot s'il y a du conflit en interne, donc c'est compliqué, donc du coup, on traite son sujet... Et en fait, dans le groupe qui traite son chantier, il y a un membre de la direction qui est présent, qui là veut sortir absolument de la salle parce qu'il ne veut pas entendre qu'il y a eu clairement des propos plus que déplacés, tenus à des stagiaires qui peuvent être assimilés, qui sont assimilés à du harcèlement sexuel. Grosso modo, un mec qui est... bien embauché, installé en CDI, qui sort à une stagiaire. Nous, les stagiaires, on les choisit sur leurs compétences faire des fellations et sur leur physique, quoi. Voilà. Truc basique, en fait. C'est des trucs qu'on rencontre partout. Alors, effectivement, le travail social, il n'est pas... c'est pas un monde à part où les gens sont conscients de tout, quoi. Au contraire, mais du coup, c'est cas banal, en fait. Et là, les mots sont posés, du coup, et là, la direction ne veut pas... Enfin, le mec de la direction ne veut pas entendre ça, parce que du coup, il serait obligé de prendre ses responsabilités, quoi. Dur. Bon, on lui rappelle que là, pour le coup, c'est la question du rapport de classe qui joue, là, pour le coup, à l'interne, en fait. Hein. C'est de dire, ouais, mais bon, si t'es payé plus que les autres, à un moment donné, c'est peut-être aussi pour que tu te farcisses ce genre de choses, quoi. Enfin, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Ou alors... t'es pas membre de la direction, vous décidez de gérer entièrement votre truc de façon égalitaire et tout ça, et vous avez tous les mêmes salaires, mais c'est pas le cas. Et en fait, bon, finalement, le truc se passe et tout ça. Et une fois que c'est soulevé et que c'est mis en public et qu'on affiche sur un panneau, voilà, dans les solutions, il y avait comme préconisation, hein, ça n'allait pas super loin. Hein, c'était juste, finalement, faire de la prévention, comment prévenir. La question, c'était finalement comment prévenir, comment identifier et prévenir les violences ordinaires ou non au travail. Donc ça allait, c'était pas forcément les violences sexistes parce que finalement il y avait plein d'autres choses qui, enfin voilà. Donc du coup c'était le fait de faire soit de faire intervenir, enfin en tout cas d'avoir une formation sur la question des discriminations sexistes, racistes au travail, hein. Et d'avoir un espèce de rappel au cadre, voilà, que voilà, un rappel au cadre. Et là, ça a créé un émoi de folie parce qu'on a soulevé en fait le fait qu'il y avait des violences. Et quand on leur a dit, bon, c'est pas une raison d'accepter qu'il y en ait, hein, mais c'est banal, hein, vous êtes pas, parce qu'ils avaient l'impression, du coup, face à bah, nous deux qui étions, nous trois, on a aussi, qui étions extérieurs, d'être un peu les mauvais élèves aussi. Enfin, c'était un peu le truc, quoi. C'est là, on est pointé du doigt. Alors, du coup, nous, forcément, on leur dit, mais non, mais banal, quoi. Enfin, ça veut pas dire que c'est acceptable, c'est inacceptable, mais c'est banal, quoi. Enfin, vous inquiétez pas, on va pas dire ah, vous là, vous êtes voilà.
Thank you. was still able to try to carry on. It's been a long time coming, but I know.
C'était Otis Redding avec un autre chant, un autre blues de résistance qui s'appelle A Change Gonna Come. Voilà, donc pour dire, bon ben voilà, on continue à lutter et à un moment, c'est sûr, quoi, il va y avoir une vraie transformation sociale qu'on espère bien radicale. Et donc pour poursuivre un peu sur cette question de l'éducation populaire politique, j'avais envie aussi de faire le lien avec cette pratique qu'on a, notamment à travers Dégenré, qui est pour moi donc d'ailleurs c'est un petit peu l'esprit des radios libres, hein, c'est des personnes qui se, à travers donc la construction d'émissions de radio aussi, bah, qui donc comme nous, bah, on s'auto-forme en fait et on s'auto-forme collectivement parce qu'on s'empare de questions, de problématiques qui nous préoccupent et on va interviewer des gens, on va chercher des références théoriques, on discute, bref, donc on se donne vraiment à travers la construction d'émissions de radio comme celle-ci des armes pour mieux lutter. Et ces armes, bah, on les transmet aussi à travers le micro et on espère que vous les recevez aussi comme ce potentiel un peu qui nous donne des billes pour lutter contre ce qui nous révolte. Donc voilà, dans le cadre d'une radio, notamment d'une radio associative là, comme celle-ci, c'est vraiment ça. Et puis j'avais envie de vous faire part du travail d'une autre association d'éducation populaire à laquelle je participe, qui est une petite asso locale qui s'appelle Virus 36 et qui est une association aussi qui, d'éducation populaire qui souhaite lutter contre les discriminations. Et donc avec en investissant pas mal le champ de l'éducatif, notamment avec l'éducation nationale, parce qu'il nous semble que c'est le plus jeune en fait, tu vas pouvoir développer ton esprit critique et plus tu seras autonome et moins tu suivras un peu les politiques répressives qui sont mises en place et plus tu seras armé finalement contre les systèmes d'exploitation. Donc on intervient pas mal en milieu scolaire et notamment en lycée professionnel. Alors ça semble important de dire, parce qu'il se trouve que dans la façon dont est organisée notre société, les lycées professionnels, c'est beaucoup des personnes, des jeunes de classe sociale plus précaire, plus défavorisée et tout, qui sont, qu'on a voulu un peu évacuer du système scolaire des filières générales et à qui on n'a pas laissé beaucoup le choix. On a dit, faut apprendre un métier maintenant, tu sais pas ce qui t'intéresse, t'es une fille, va donc faire coiffure, t'es un garçon, va donc faire mécanique. J'ai l'air de caricaturer, mais malheureusement, en travaillant quotidiennement avec tous ces jeunes, on se rend compte que c'est comme ça que fonctionnent beaucoup les conseillers d'orientation, les profs, etc. Donc, on peut dire vraiment que l'orientation scolaire, à l'heure actuelle, elle est très classiste, hein, clairement. C'est la reproduction sociale, hein, souvent. Quand tu es enfant de médecin, tu as beaucoup plus de chances d'être médecin ou avocat, en tout cas des métiers qui payent bien. Quand tu es enfant d'ouvrier, tu as plus de chances d'être ouvrier ou des métiers avec des salaires, en tout cas, qui sont un peu équivalents. Et donc nous, on a envie de lutter contre ces inégalités sociales. Et donc, on ne pense pas qu'en lycée professionnel, du coup, parce que c'est des gens de classe populaire, il y aurait plus de sexisme ou de racisme ou quoi qu'ailleurs. Mais il se trouve simplement qu'on est pas mal sollicité par ces lycées peut-être parce qu'il y a ces a priori en toile de fond hein, qui persistent malheureusement, alors que nous, on sait bien que le sexisme, le racisme, etc. sont malheureusement transversales à toutes les classes sociales. Mais en tout cas, dans les lycées professionnels, il y a aussi des programmes scolaires qui sont plus souples et qui nous permettent donc de toucher à, voilà, à toutes ces réalités sociales, de les aborder et tout, d'avoir des heures disponibles à ça et de ne pas être complètement formaté comme dans les filières générales, par les programmes très stricts à suivre et tout. Et donc nous, ben, quand on intervient donc, auprès de ces personnes en lycée, tout ça, on insiste, et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire. On dit qu'on n'est pas là pour délivrer la bonne parole, hein, pour avoir notre discours moral, pour dire voilà, les discriminations c'est mal, les femmes et les hommes sont égaux, les races n'existent pas. Voilà, enfin, c'est des choses qu'on. On est le plus là pour partir un peu des réalités sociales des personnes qui sont là et pour faire émerger leur parole. Déjà, et de se dire que les réalités sociales elles sont extrêmement complexes et que du coup, c'est les personnes concernées qui sont les mieux à même de les analyser. Alors, avec une intelligence collective, parce que ça, voilà, c'est le collectif qui permet de. De prendre du recul et puis de recouper un peu ces réalités. Donc on parle vraiment d'intelligence collective. Et puis après, le collectif, il va aussi permettre de recouper et de s'emparer un peu de ces questions. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience qu'il y avait bien des structures sociales qui amenaient les discriminations en général, l'intérêt, c'est de voir collectivement les leviers qu'on peut actionner pour transformer ça, pour le changer, pour le faire exploser et pour amener autre chose. Donc, c'est un peu tout ce processus, ces étapes-là qui font un processus d'éducation populaire. C'est vraiment un travail ensemble. Et je dirais que nous, après, on met au service des personnes concernées, là, de ces jeunes, des outils qui se veulent souvent aussi ludiques. Parce que c'est vrai qu'en jouant, en se faisant plaisir, on active mieux notre intelligence, on se réapproprie plus des notions, etc., que quand c'est fastidieux, pénible, etc. Et donc... par exemple, voilà, j'avais envie de juste d'illustrer peut-être un peu une intervention qu'on a faite récemment pour se rendre compte un petit peu de ce qui est en jeu dans ce travail collectif-là en milieu scolaire. J'avais envie de raconter une anecdote. Et donc cette anecdote, c'était avec une classe de jeunes hommes, on pourrait dire. Puisque là, on était dans un lycée avec plein de professions construites socialement hein, pour être réservées aux hommes. De la mécanique, de la maintenance d'outils industriels, des choses de ce type. Et donc là, on se retrouvait avec une classe de jeunes hommes entre 16 et 20 ans. Et dont la moitié de la classe était des personnes blanches et l'autre moitié était des personnes racisées. Donc ça vaut le coup parce que de se dire aussi de parler de ce terme de racisé, parce que c'est vraiment justement quand on a fait émerger un peu leurs paroles pour savoir qu'est-ce qui les préoccupait dans cette société, le monde qui les entoure, etc. Pour un certain nombre, il y a le racisme qui les préoccupait beaucoup. Et du coup, ils oscillaient entre de toute façon, on est tous pareils. Et puis des personnes, certaines personnes disaient non, on n'est pas tous pareils. Enfin bon. Et du coup, ce terme de racisé, il vient mettre le doigt là-dessus en fait. C'est-à-dire, on est bien d'accord que les races n'existent pas. Ça fait très longtemps que ça a été prouvé, que c'est le même sang qui coule dans les veines des gens, quelle que soit leur couleur de peau, les mêmes gènes, etc. Mais que, en fait, c'est une réalité sociale. C'est-à-dire que dans une société, dans les sociétés occidentales, on va considérer qu'il y a des personnes qui sont blanches, Alors c'est pareil, hein, le blanc de peau, c'est bon, c'est en fait c'est une représentation sociale parce que souvent c'est lié aussi à ton nom de famille, tout ça, qui va faire qu'on va te voir comme blanc et puis les personnes qu'on va voir comme non blanches, donc qu'on va raciser. Et donc ça, bah déjà, c'est prendre conscience de ça, qu'on vit dans une société raciste. Donc cette société raciste racise des personnes et du coup instaure une hiérarchie sociale avec des personnes blanches qui seraient soi-disant au-dessus de personnes non blanches et donc qui mériteraient de voilà qui ont des plus hauts des meilleurs métiers, des plus hauts salaires, etc. Et donc, en fait, c'était intéressant aussi parce que nous, on était là à la base. Les profs, ils voulaient beaucoup qu'on travaille sur les violences faites aux femmes parce que c'était des garçons. Donc, effectivement, c'était aussi des garçons. Donc, potentiellement, ils font partie de cette classe dominante des hommes qui exercent des violences à l'encontre des femmes. Ça n'en reste pas moins vrai, malheureusement. Mais là, on voit bien que ça se recoupe aussi, qu'il y avait aussi à l'intérieur des hommes racisés qui, eux, se prenaient aussi de plein fouet le racisme. Et on devait aussi parler, pour les profs, c'est important qu'on parle d'homophobie. Donc pareil, hein, ça c'est un phénomène très... malheureusement très présent dans toutes les classes sociales dans notre société. Mais du coup, nous, on est parti déjà de leurs préoccupations et donc on est parti de ce phénomène de racisme que vivaient une partie des jeunes de ce groupe-là pour voir en quoi, finalement, ces mécanismes d'oppression, bah, c'est des mêmes qu'on retrouve aussi en partie. Ça, à chaque fois, il y a des spécificités, mais qu'on retrouve dans les mécanismes aussi de violence sexiste. Et aussi de violence de classe sociale. Ça a été vraiment des prises de conscience intéressantes. Et par exemple, comme outil, on a utilisé un outil qu'on utilise aussi en tant que féministe régulièrement, qui est la non-mixité des personnes opprimées, pour aider à prendre conscience justement des situations, des oppressions qu'on vit à travers un recueil de témoignages, d'anecdotes et tout ça. On appelle ça les leviers qu'on peut actionner, en gros, des solutions qu'on peut trouver, en tout cas, comment faire, par exemple, quand des jeunes se révoltent contre le racisme, comment faire qu'ils ne se prennent pas trop de répression derrière, parce que là, par exemple, on avait des récits comme ça, où une personne qui se prend des injures racistes, elle va casser la gueule à la personne qui les a énoncées, ce qui semble assez logique, hein, ma foi. Le problème, c'est qu'après, s'il y a les flics qui lui tombent dessus, au final, c'est un peu double répression. Un, je me fais humilier, et puis deux, je me retrouve avec des pénalités en garde à vue, ou voire avec des peines, etc. Donc c'est comment trouver des stratégies, finalement, la levier, c'est la question des stratégies, et en général, montrer que c'est des stratégies collectives qui sont souvent les plus efficaces, parce que déjà la responsabilité, elle est plus portée par une personne qui va être réprimée par les flics, elle est portée collectivement, et puis aussi, il y a cette idée que plus on est nombreux, plus on peut avoir un impact, tout ça. Donc c'est comment travailler avec les personnes sur cette force collective qu'on peut trouver et les stratégies à mettre en œuvre. La non-mixité, par exemple, c'est un outil qui peut aider à ça. Et donc là, on a proposé aux personnes racisées de se retrouver dans un groupe non mixte. Et des échos qu'on a eus derrière ou quoi, il s'est passé des choses importantes pour eux. Donc ça, c'est aussi comment féminisme et éducation populaire, ça peut se rejoindre, régulièrement. Donc il y aurait encore beaucoup à dire sur ces questions-là. Je pense qu'on y reviendra dans d'autres émissions. Mais pour l'heure, on va vous laisser avec un dernier morceau d'un groupe qui s'appelle Perte Noire. Et son morceau s'appelle Exit.
Cross my pain. management. Fuck all these writers. Printing papers. Embellishment.
Excited to find.